Je vous propose de commencer avec une petite introduction comme je l'ai fait pour la formation continue. Alors donc l'objectif pour moi c'est mutualiser et partager. Alors on est dans quel contexte cette fois-ci? Eh ben, notre public ça peut être la formation initiale, encore que Didier me faisait remarquer que dans la francophonie c'est rarement la formation initiale, mais potentiellement ça peut l'être. Ça peut être la formation continue et puis ça peut être le grand public. Alors, on va voir comme problème à gérer les problèmes de la distance qui sont plus importants que quand on est dans notre territoire hexagonal, avec des spécificités universitaires parce que toutes les universités françaises, francophones, libanaises, tunisiennes, etc. ne marchent pas de la même façon. Avec la diversité des approches culturelles, et ça je pense que c'est une notion importante, Sophie est pas là, mais pour Uniciel, il y avait eu un projet comme ça qui avait été fait, où les mêmes ressources avaient été complètement adaptées au public, et c'était quand même important, parce que bien évidemment, on n'a pas tous été élevés avec Tintin ou Spirou, je ne sais plus. Et puis ça dépend du contexte matériel et logistique des partenaires. Aller proposer des ressources qui demandent des débits très importants quand vous avez un projet pour Haïti, c'est clair que vous allez peut-être être à côté de la plaque. Alors le cahier des charges, j'ai repris un petit peu le cahier des charges que je vous ai proposé tout à l'heure. C'est que il me semble qu'il faut qu'on assure des formations de qualité avec des sujets qui préoccupent effectivement les partenaires. Donc on n'est pas là pour aller faire du push parce qu'on est français et qu'on a peut-être plus de sous que les pays du Sud. Il faut que ce soit le fruit d'une collaboration et d'une adéquation entre les besoins des partenaires et les formations qu'on va mettre en place. Il faut trouver des formateurs compétents qui vont savoir prendre en compte les disparités des niveaux. Et les disparités des niveaux, j'ajouterai volontiers à la disparité des niveaux des apprenants qu'on a vu tout à l'heure pour la formation continue, peut-être les disparités des niveaux des formateurs qui, compte tenu du contexte, n'ont pas forcément les mêmes niveaux. Ensuite, il faut prendre en compte les contraintes logistiques et puis éviter les mobilisations trop longues des enseignants. Si on met un dispositif à distance, c'est peut-être pour éviter que des enseignants se déplacent pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois avec un emploi du temps qui devient difficile, ou bien des apprenants qui vont venir être mobilisés, vont avoir un budget par rapport à ça qui va être important. Donc il y a des contraintes espace-temps auxquelles il faut ajouter des contraintes logistiques. Évidemment, à partir du moment où on déplace des formateurs ou des formés, il y a un coût en plus du coût humain. La quatrième contrainte, c'est la mise en place de modalités qui vont respecter des espaces de rencontre et de convivialité. Et là encore une fois, c'est pas l'UNSPF qui va proposer de monter des diplômes cohabilité. C'est l'Université de Bordeaux, parce qu'il y a un relationnel avec l'Université d'Haïti, qui va se passer quelque chose, ou avec l'Université libanaise, parce qu'il y a une certaine amitié, une certaine convivialité qui s'est instaurée, qui n'est pas remplaçable et qui n'est pas quantifiable, et qui fait que tout va bien marcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, si on ne propose pas des formations ? Ma réponse, c'est la même que pour la formation continue. Eh bien, c'est de mettre en place des formations ouvertes et à distance qui vont gérer à la fois les contraintes espace-temps et les contraintes logistiques. Et avec les outils qu'on a choisis comme Scénari, qui est un logiciel en open source, qui va vous permettre, en ayant une plateforme, en ayant un site, d'avoir accès aux ressources. Vous n'avez pas besoin de haut débit. On est vraiment en contraintes logistiques à minima. Donc, ma proposition, c'est la même. Quand on va travailler ensemble entre deux pays, comment est-ce qu'on met en place la formation? Quelle proportion il faut de présentiel par rapport à la distance, en sachant que les regroupements, ils vont coûter beaucoup plus cher parce que ça va supposer des déplacements. Donc il faut un rapport coût-efficacité correct pour qu'il y ait suffisamment de présentiel pour avoir des échanges et pas trop pour que ça ne coûte pas une fortune. Donc il faut trouver des compromis, c'est comme dans la vie. Alors, en ce qui concerne le troisième volet, eh bien là aussi, probablement et même peut-être plus que pour la formation continue, on peut avoir une inhomogénéité des niveaux. Et là, par contre, j'y ai ajouté deux éléments. Je pense que l'inhomogénéité, elle peut venir des apprenants, parce que les modules de formation, parce que les maquettes de formation ne sont pas les mêmes dans les différentes facultés. Donc il va falloir, quand on met en place une formation entre deux établissements, les adapter. Et puis peut-être qu'il peut y avoir des problèmes aussi d'inhomogénéité au niveau des enseignants. Et il faudra à ce moment-là envisager des soutiens en ingénierie pédagogique. Et ça, ça pourrait se faire sous forme de formation-action. Et là, je pense que Didier aura peut-être des propositions à nous faire par rapport à ça. Et puis, pour qu'un projet marche bien, il faut qu'il soit soutenu. Donc, il faut qu'il y ait des soutiens institutionnels pour que les problèmes inhérents à ces partenariats soient levés avant de démarrer. Alors, sur l'adéquation formation-besoin, voilà les propositions que je voulais vous faire par rapport aux UFR francophones. C'est de définir avec les UFR partenaires les structures et les structures impliquées dans la francophonie, donc qui peuvent nous aider. Donc ça peut être l'AUF, ça peut être par exemple le projet IOMED qui a été évoqué hier. Donc de définir les besoins et les formations à mettre en place. Alors après, soit on fait un vrai dispositif de FOAD, et peut-être que le soutien de l'AUF sera différent que si on met uniquement des modules ou si on met des ressources à disposition. Donc il faut voir à quel degré on envisage le partenariat. La deuxième chose que je vous propose, c'est comme tout à l'heure, de mutualiser la production des ressources avec l'objectif soit d'en faire des formations diplômantes, qui peuvent être des formations cohabilitées, soit des modules de formation qui pourraient être utilisés en formation initiale et en formation continue, ou bien uniquement en formation continue. Et puis c'est enfin de contribuer à une meilleure harmonisation géographique et disciplinaire des formations des acteurs. Et par exemple, on a fait l'expérience, j'ai raconté ça à Swad hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec une ingénieure pédagogique qui était à Angers avant, qui est maintenant à l'université de Compiègne, qui est allée récemment former des médecins qui ont été passionnés par Scénari et par Émeraude. Les pharmaciens étaient à côté, c'est bête, on a loupé le coche. Il s'est passé la même chose il y a quelques mois au Liban, à Beyrouth, où il y a eu des formations qui ont été programmées. Pour des scientifiques, on aurait pu faire d'une pierre deux coups. Donc ma proposition, c'est de concevoir et de produire des modules de formation. Mais les concevoir, ça veut dire qu'on les conçoit ensemble. On ne va pas plaquer une formation sans s'occuper du contexte où ce sera dispensé. Donc concevoir et produire des modules de formation qui seront utilisables et appropriables par le plus grand nombre. Donc ça veut dire que si on met en place un diplôme cohabilité, on va par exemple produire des ressources à l'échelon national, et puis ce diplôme cohabilité, il va pouvoir être déployé entre l'université de Bordeaux et puis Tunis, et puis entre l'université de Caen et Haïti. Chacun va récupérer les ressources et les utiliser dans le cadre de sa convention partenariale. Donc ça suppose de mutualiser, de tenir compte de la diversité culturelle et puis du contexte logistique des partenaires. Et puis ensuite, il faut contribuer à la production de nouvelles ressources et à leur mise à jour, parce que faire des ressources à un instant T, c'est bien, mais si les ressources sont obsolètes le lendemain ou l'année suivante, eh ben, il va falloir prévoir la pérennisation. Donc, encore une fois, l'université numérique n'est pas une université diplômante. Et donc, ma proposition, c'est donc de mutualiser ces ressources dans les projets qu'on aura en inter-faculté. Donc voilà, ma proposition est ouverte au débat, qui rejoint celui de la formation continue de ce matin, mais aussi ce qu'on va dire à propos du grand public ensuite. Voilà.
Je vais vous présenter très rapidement ce que l'Agence universitaire de la francophonie propose, parce que tout le monde n'est pas censé connaître cette institution dont vos établissements sont tous membres, qui vous appartient, et qui a une... depuis 1989, qui a investi dans la formation à distance en utilisant les technologies qui ont évolué. Donc à l'époque, on utilisait le satellite, puis le Minitel, puis maintenant l'Internet et autres outils mis à notre disposition. Donc trois exposés, un sur institution, enjeux et priorités, donc le second sur les dispositifs de FOAD, et enfin sur les outils mis à la disposition des établissements. Donc très rapidement, qu'est-ce que notre institution ? C'est une association de droit québécois qui a 759 établissements membres aujourd'hui, universités, grandes écoles, écoles d'ingénieurs donc, et puis les centres de recherche. Répartis sur l'ensemble de la planète en 9 bureaux régionaux, donc c'est une institution décentralisée. Donc 5 instituts de formation supérieure de niveau master et recherche, 50 filières, donc ce qu'on appelle une filière francophone, c'est dans une université étrangère où la langue française n'est pas la langue naturelle d'enseignement, d'avoir des filières où on enseigne la totalité des cursus en langue française. 45 campus numériques francophones. Alors un campus numérique francophone, c'est pas un campus numérique français, c'est une structure réellement matérielle qui offre, c'est un espace numérique ouvert, polyvalent et installé dans les universités les plus démunies, de manière à ce que les enseignants, les chercheurs et les étudiants aient les mêmes conditions de travail que dans un pays du Nord, tel que la France par exemple. 75 diplômes en formation ouverte et à distance, totalement à distance. Nous ne prêchons pas pour la mixité, les regroupements, on pense que ça ne sert à rien par expérience et ça coûte très cher. Et donc notre objectif, c'est qu'il y ait vraiment 100% de distance, qu'il n'y ait pas de déplacement, de regroupement et autre chose. On a 6000 experts, donc qui sont des enseignants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui sont formés pendant ces dernières années à travers un processus dont je vais vous parler et qui sont immédiatement disponibles pour faire du tutorat dans n'importe quelle discipline, pour se déplacer, pour monter des formations, que ce soit à l'usage de la technologie Linux pour bâtir un réseau rapidement dans un campus, ou pour mettre en œuvre le travail collaboratif via des plateformes Moodle ou autres. Et puis on est en création à Tunis, que je suis en train de mettre en place en ce moment. C'est un institut de l'ingénierie de la connaissance, qui sera un institut ouvert à la fois sur la Méditerranée, mais également sur l'Afrique, et qui visera à donner aux universités les appuis nécessaires afin que, tout en gardant leur autonomie et leur libre arbitre, elles puissent intégrer la formation à distance comme étant une nouvelle composante de l'université. Il y a d'autres choix qui pourraient être faits. Ce que les anglophones ont fait comme choix, c'est de créer des universités virtuelles. On pourrait très bien dire, on va créer une université virtuelle, mais à ce moment-là, elle risque de venir en concurrence avec les universités dites présentielles, en les asséchant, en bloquant leur innovation, et en faisant en sorte à un moment donné qu'elles vont truster la moitié des étudiants, puisque compte tenu de la démographie universitaire actuellement qu'on constate dans les pays du sud de la Méditerranée et du sud du Sahara, on est dans une logique complètement différente de celle pour laquelle l'enseignement tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a vécu existe. En particulier, vous parliez des cours magistraux tout à l'heure, on ne peut plus faire de cours magistraux dans certains pays. Je vais vous donner l'exemple du Sénégal. Quand j'étais prof à l'université de Dakar, c'était en 91, il y avait 15 000 étudiants. Aujourd'hui, il y en a 62 000. Les locaux ont à peine bougé. Et quand on ouvre un amphi nouveau qui fait environ 1 000 places, 1 500 places, ce qui est pas mal quand même dans un pays africain, Il y a 3000 personnes dehors. Et comme il n'y a pas de sonorisation, le cours magistral ne sert à rien. Et donc, il faut savoir que ce modèle, ce paradigme éducatif est peut-être fait pour une démographie, pour un mode de vie, mais qui sera peut-être plus celui que nous allons vivre, nous, compte tenu de l'inversion de la courbe démographique dans les années qui viennent. Là, pour l'instant, elle est positive côté enseignant, donc tout va bien pour les étudiants. Mais lorsque la moitié des enseignants dans les 5 prochaines années vont partir à la retraite, que ce sera très difficile de les remplacer, qu'on va être dans un système d'autonomie universitaire avec des recrutements locaux ou régionaux, par exemple, on risque d'avoir de plus en plus besoin de ces nouveaux outils, et on risque également de sacrifier de plus en plus le cours magistral ou de lui donner une autre fonction. Donc l'enjeu pour nous sont les savoirs, en essayant d'emmener les universités ou les pays les moins avancés vers une économie de la connaissance. Donc je passe sur l'économie de la connaissance. On a beaucoup parlé de société de l'information en pensant beaucoup société de la connaissance. On rajoute à ça connaissance partagée. C'est un des principes de la francophonie. La francophonie, c'est un espace solidaire de rencontre. C'est pas un espace marchand, c'est un espace non aligné par rapport à certains mouvements de l'éducation actuellement. Et on pense qu'aujourd'hui, on est dans la création d'une nouvelle économie, économie de la connaissance, qui génère ses propres industries, ses propres ingénieries nouvelles, et une nouvelle approche de nos sociétés. Et le danger, c'est que le fossé se creuse de plus en plus et qu'on est, confronté à de nouvelles fractures. Donc, quels sont nos objectifs simples? Accroître les capacités de connectivité d'abord, fracture numérique, et puis, j'ajouterai aussi de la fracture énergétique, parce que vous savez certainement que quand vous cliquez sur Google, c'est facile, donc on clique 300 fois par jour sur Google quand on cherche quelque chose. Globalement, au niveau planétaire, un clic sur Google, c'est 3 watts. 3 watts, on se dira, comme on produit énormément d'électricité, pour nous, 3 watts, ça n'a aucun sens. Mais c'est 3 watts. C'est pour ça que d'ailleurs, les Google Farms sont obligés d'avoir des centrales électriques intégrées, là, quand ils créent leur ferme. Une ferme Google, c'est 250 000 serveurs. Et puis ça fait 500 mètres de long sur 300 mètres de large. Il y en a une en Belgique. Si Google n'a pas le droit d'avoir de centrale nucléaire, bien sûr, mais créer des centrales électriques parce que, ne serait-ce que pour ce tout petit outil qui est extrêmement important, mais qui n'est qu'un outil à considérer que comme tel, la consommation électrique est phénoménale. Donc on est obligé de considérer la technologie aujourd'hui dans ce qu'elle a de pire, c'est sa consommation électrique. Donc de choisir des appareils basse consommation et puis d'ajouter sur les toits de nos campus numériques des panneaux solaires de manière à donner un peu d'autonomie. Enfin, on n'arrive pas à faire 100%, mais au moins de durabilité à nos équipements qui, faute d'électricité, de toute façon ne fonctionneraient pas. Renforcer les compétences humaines par la formation, ça c'est relativement simple, c'est ce qu'on fait tout le temps, tous. Et puis promouvoir des contenus scientifiques en langue française. Donc je rappelle que nous sommes une agence de la francophonie. Donc c'est pas la peine de nous parler d'une autre langue que la langue française, en tout cas dans les langues majeures. La langue française, c'est une langue qui ne vit que parce qu'elle se maille avec des langues nationales. Donc elle trouve sa réalité dans la diversité linguistique et dans le maillage avec les autres langues. C'est comme ça qu'elle peut être forte à partir du moment où elle est maillée à l'arabe, au bambara, au swahili, etc., etc. L'anglais, c'est une langue dominante qu'on n'a pas à promouvoir. Les anglophones le font très bien, et puis bientôt les Chinois font très très bien la promotion du mandarin également. Par exemple, le mandarin est la seconde langue enseignée au Cameroun. Donc, dans les contenus scientifiques, pour nous, ce qui est fondamental, c'est, Françoise l'a abordé très très rapidement tout à l'heure, c'est de développer la standardisation et la normalisation. Quand on a... tu parlais de spirale, c'est ça ? Bon. Quand on fait des produits propriétaires qui ne sont pas normalisés, bon, il y a des tas de gens qui sont contre la normalisation, on ne peut plus les réutiliser jamais, nulle part. Ni d'un point de vue diachronique, ni d'un point de vue synchronique. C'est un endroit, une dépense sèche, qui sert strictement à rien et qui économiquement pose énormément de problèmes. Alors d'autant plus en coopération, ou dans la coopération, on utilise des logiciels à code source ouvert, donc des logiciels libres, Et on a besoin également de pouvoir réingénieriser des produits, les recontextualiser. Et à ce moment-là, s'ils sont pas normalisés, ça ne sert strictement à rien. On a perdu de l'argent et vous savez, la France a perdu beaucoup d'argent avant de normaliser les contenus à travers les UNT. Ce sont les UNT, les premières expérimentations françaises qui ont pris en compte la dimension norme. Tout ce qui a été fait avant, il faut le refaire. Voilà. Et donc, bien sûr, pour nous, c'est le libre accès à la connaissance et le libre accès à l'information. Donc, logiciels et contenus libres, les Creative Commons, etc., les licences libres. Donc, quand on parle de 75 cursus diplômants, ce sont des licences ou des masters. Et en médecine, des DU. Compte tenu de la spécificité des études, on ne pouvait pas exiger d'avoir des masters, donc on a également des DU. Donc il y a un certain nombre de DU qu'on a soutenus, qui viennent de cette université d'ailleurs, d'un bâtiment à côté. On a soutenu 5 DU pendant des années, qui se sont peu à peu transformés en masters, en épidémiologie notamment, statistique également, en santé publique. Un travail remarquable qui a été fait justement en combinant, en pensant dès le début 3 DU, en les combinant ces 3 DU, on arrivait à avoir un master 2 en 60 crédits. Donc réunir des consortiums pédagogiques, c'est la base, on ne travaille jamais seul, bien évidemment, vous avez tous compris ça, puisque vous faites partie d'un grand consortium universitaire, et surtout pour nous c'est la professionnalisation des enseignants, c'est qu'on ne peut pas demander à un enseignant, peut-être en France, je ne sais pas, mais en tout cas, ceux que je côtoie, d'aborder les TIS sans avoir été lui-même formé. Donc on met en place pour les enseignants des masters professionnels qui leur permettent de suivre pendant leurs cours, donc les universités les libèrent un certain temps, de suivre pendant 11 mois, d'acquérir, ou en 2 fois 5 mois et demi, d'acquérir un master dans le domaine justement des TIS et de la formation à distance, de façon à avoir au moins un relais par université capable de piloter des projets d'envergure. Parce qu'on peut parler de scénarii, c'est facile, tout ça. Mais il n'y a pas que la mécanique, il y a aussi toute l'approche conceptuelle qui modifie profondément tous les paradigmes éducatifs. Et il ne faut pas croire que dans certains pays francophones, on soit à même justement d'aborder ces nouvelles représentations de la formation aussi simplement. Bon, qu'est-ce qu'apporte... Dans un partenariat, nous ne sommes pas un bailleur de fonds, donc on ne donne pas d'argent, je vais vous décevoir, on ne vous donnera pas d'argent, donc on n'est pas un bailleur de fonds. Par contre, ce qu'on favorise, c'est le partenariat, c'est faire en sorte que le service public français s'arrête à ses frontières. Vous avez peut-être dans vos plans quadriennaux la possibilité de coopérer avec le Sud, ou l'Afrique, ou le Vietnam. Mais en tout cas, l'Afrique ou le Vietnam n'a pas la possibilité de coopérer avec vous. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui finance le partenariat. Et financer le partenariat, c'est peu de choses, mais en tout cas, c'est ce qui fera la différence et qui permettra la réussite d'un partenariat. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est que non seulement vous puissiez être intégré dans la construction de contenu du Sud, mais que vous intégriez dès le début, comme vous voulez le faire avec les étudiants, des personnes du Sud dans la construction de vos contenus. Le partenariat, c'est pas que dans un sens, c'est-à-dire qu'il faut avoir un regard croisé et bien comprendre que les talents au Sud, ils existent également. Ils s'expriment peut-être différemment, avec moins de possibilités, mais en tout cas, il faut dès le début intégrer des gens du Sud et c'est là où on met en place ce qui pour nous est fondamental, c'est la co-construction. Une des bases même de ce qu'on considère comme une évolution pédagogique, c'est la co-construction. Ensuite, bon, bien sûr, tout le reste, hein, pas de formation au rabais, donc même critères de sélection, mêmes examens, etc., etc., même valeur scientifique du diplôme, pas de diplôme marqué fait à distance. Alors, de toute façon, il y a certains pays comme le Liban, on en parlait avec Dola hier, qui ne considèrent pas que la formation à distance soit une formation qui a une valeur dans le pays. Même si c'est pas écrit à distance, on demande aujourd'hui le certificat de présence dans le pays où on a passé son master, par exemple, où on a fait ses études. Sinon, elle n'est pas valable. Alors pourquoi ? Il faut bien comprendre que peut-être que c'est pas le cas. Je le souhaite, et puis je le vois bien dans la site Farmef, mais une grande partie de la formation à distance aujourd'hui, elle est mise en place comme étant un nouveau marché. C'est un nouveau produit dans un nouveau marché. C'est un produit qui est moins sensible. que la privatisation complète des formations universitaires, hein, on la met, elle est en formation continue. C'est un marché, et c'est un marché qui risque d'assécher complètement les universités du Sud qui ont beaucoup de mal à démarrer. Le risque, c'est d'arriver avec une formation qui sera mieux faite, avec des enseignants de renom, avec une vraie valeur, un vrai diplôme de l'université Victor Ségalen, par exemple, ou d'une autre, je cite celle-là parce que nous y sommes, et qui, à côté de l'université de Bamako ou de Niamey ou une autre université, la concurrence sera simple. Il suffira d'avoir de l'argent, d'être bon, de remplir toutes les exigences, mais le risque, c'est peu à peu que l'université présentielle à côté, elle s'étiole et elle meurt parce que justement tous ces bons éléments sont partis pour, sans se déplacer. Hein, quand je parlais tout à l'heure au médecin, quand on dit gagnant-gagnant, tout le monde est gagnant, mais on ne gagne pas la même chose. Hein, c'est un gain asymétrique. Le public du Sud gagne parce que il va avoir une formation de qualité normalisée, structurée. Les jeunes filles vont gagner parce que quand elles vont avoir leur diplôme, elles n'auront pas eu ce qu'on appelle des MST, des masters sexuellement transmissibles. Elles auront été respectées pour ça. Gagnant aussi parce que à un moment donné, pour un État africain, avoir une formation publique qui se met en place à distance, c'est aussi une économie de moyens. Et puis, en face, on va gagner parce qu'on n'aura pas de visa à délivrer, parce qu'on va avoir pouvoir montrer qu'on a des étudiants étrangers, parce qu'on va avoir des têtes de pont dans certains pays avec lesquels on pourra travailler ensuite. Donc, c'est un gain asymétrique, hein, ce gagnant-gagnant. On ne gagne pas la même chose. Mais normalement, on doit penser à gagner au moins chacun des deux côtés. Donc on dit aussi qu'il faut associer l'AUF aux candidatures pour une raison simple. C'est pas parce qu'on veut trafiquer les sélections quand on finance des allocations d'études, c'est-à-dire quand on donne une formation à un master, par exemple, si on paye la moitié des coûts de formation du public qui est présent, on tient à être présent à la sélection parce qu'on fait de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 12 000 candidats au master. Sur ces 12 000 candidats, on a 18% de femmes, et sur ceux qui ont réellement une allocation, on a 30% de femmes. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum de rééquilibrer, tant que faire se peut, la formation des jeunes femmes. Donc qu'est-ce qu'on fait comme apport? C'est quoi? C'est des allocations d'études, c'est simple. Vous avez un master, vous avez 20 places, on finance, alors ça dépend des prix, etc., on finance un certain nombre, ce qu'on appelle des allocations. C'est-à-dire qu'on donne une bourse pour que l'étudiant puisse s'inscrire, mais on ne lui donne pas à lui, on vous la donne à vous. Ça a un intérêt énorme, c'est-à-dire que vous, si vous avez un étudiant malien qui s'est inscrit dans vos formations, pour vous payer, il ne peut pas vous payer en CFA. Quand l'AUF vous paye, elle vous paye directement en euros. Et lui, il verse sa partie, ses 230 euros de frais d'inscription à l'université, il le verse en CFA à l'AUF, parce que l'AUF a un bureau à Bamako, et que donc elle fait de la compensation financière. On est une chambre de compensation un peu clandestine. On met à la disposition des apprenants des infrastructures modernes, donc ils peuvent aller suivre des cours, ils peuvent suivre leurs examens en visioconférence. On a deux périodes dans l'année très chargées, sont les périodes d'examen en visio. Alors c'est terrible parce que ça nous prend beaucoup de temps et de place, mais en même temps, on sait avec qui on a en face de soi. L'enseignant est capable de visualiser son étudiant, de voir que c'est bien la bonne personne et de faire en sorte qu'à travers une téléprésence, même sans se déplacer, il est quand même là. Et ça marche très bien. Donc on est également là pour former les enseignants du Sud, qu'on peut considérer comme moins bien formés qu'au Nord, pour qu'ils puissent intégrer des équipes pédagogiques internationales et faire partie dès le début de master, puisque si vous pensez que votre master peut être utile dans un pays du Sud, il faut aussi penser que les formateurs du Sud peuvent être utiles à votre master pour les gens du Nord. Voilà. En tout cas, il faut contextualiser à un moment donné les formations qu'on va donner aux différents pays avec lesquels on va travailler. Et pour ça, ce qui n'est pas possible en formation présentielle l'est parfaitement quand on utilise les TICE. Et puis, c'est favoriser la création de cursus diplômants complets, c'est-à-dire faire du transfert de savoir-faire complet, et de ressources pour qu'on puisse monter des grands cursus diplômants dans différents pays, au Vietnam, au Liban, en Syrie, un peu partout, et en langue française. Alors voilà le dispositif, hein. Donc on a deux types de formations à distance, je vous le disais, il y a celle du Sud et celle du Nord. Donc celle du Sud, on les accompagne pour les créer, et puis on a donc pour son forme toutes les équipes du staff qui va mettre en place cette formation. On forme tout le monde, les techniciens qui vont gérer le réseau, on forme les auteurs, les concepteurs, on forme les futurs tuteurs, on forme le personnel de gestion, les responsables pédagogiques, etc., etc. On met à disposition un référent, donc quelqu'un qui sait monter un cursus complet du début jusqu'à la fin et qui en a déjà monté et animé. Donc la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent du Maghreb, surtout Maroc et Tunisie d'ailleurs. À chaque fois, on fait un appui à la sélection à distance des candidats. Pourquoi ? Parce que dans notre dispositif, vous avez un portail de gestion des formations à distance qui vous permet, lorsque vous passez par la UF, de pouvoir gérer via une plateforme de gestion complète à la fois les candidatures, tous les autres dossiers des imprenants, les notes, etc., etc. Donc vous avez votre espace privé. Et nous, ça nous permet, comme tout le monde est sur la même structure informatique, de faire des statistiques très rapidement et de donner des études, de remettre des études sur les taux de réussite, d'échecs, sur les variations, les courbes, et on remet tout ça à qui le veut, et surtout à nos bailleurs de fonds. Donc dans les deux cas, vous avez des espaces numériques dédiés. Espaces numériques dédiés, ce sont les campus numériques francophones, une cinquantaine. Ça permet, à la fois quand on a une formation du Sud ou même du Nord, de pouvoir la suivre quelque part. Parce que même s'il y a une évolution lente de l'acquisition de matériel par les apprenants du Sud, le Grand Sud, alors à la fois les pays émergents et puis les pays les moins avancés, il n'en reste pas moins que si on n'a pas des espaces collectifs, ça marche pas. Surtout pour les examens, parce que c'est quand même un peu limite de faire passer des examens à quelqu'un qui reste derrière sa machine de chez lui, on est sûr de rien. Et puis on forme, bon, après, les gens à l'usage de toute la documentation. Alors, bon, on voyait que là, on est dans une logique de ressources. Mais il n'y a pas que la ressource, il y a également toute l'information scientifique. Il y a les bibliothèques virtuelles où on met les livres à disposition en ligne. Oui. Mais moi, je prenais exemple sur toi parce que tu es un modèle pour moi et j'ai vu que ce matin, on pouvait se laisser aller à tout ce qu'on voulait. Bon, campus numérique francophone, je vous ai expliqué ce que c'était. Médiation, normes et gouvernance aussi. Bien évidemment, on ne peut pas travailler dans ce milieu sans avoir une réelle approche de la norme. On a mis en place quelque chose qui permet d'évaluer les parcours, enfin, de repérer les parcours qui s'appelle le passeport TIC et développement. C'est un e-portfolio qui est à la fois en i et en portfolio et qui permet à chaque individu qui a franchi un certain nombre d'étapes de disposer d'un visa. Un visa qui lui permet ensuite de repérer son parcours ou de le valoriser quelque part. Là où ils sont placés tous nos campus, donc vous voyez, ça va de Dakar en Moldavie et puis en Albanie, en Roumanie et aussi ailleurs. Des adresses pour vous informer, vous pouvez donc voir toute l'offre de formation sur foad.fr.org. Là, vous avez l'ensemble du dispositif qui est présenté, toutes les formations, la manière dont, si vous avez une formation qui est agréée par la UF, elle se présentera. Il n'y a pas de secret, tout est montré. Mais on n'a pas, bien évidemment, d'université numérique thématique qui, elle, ne servent que comme centre de ressources pour monter des formations. Et j'ai écrit « Merci pour votre attention » en bas, justement. Merci.
Bon, ben, pour ceux qui ne le savent pas, je vais peut-être présenter un peu la CITFARMEF en deux mots. C'est la conférence des doyens de faculté de pharmacie d'expression française, pour situer un peu la problématique. C'est une conférence donc avec 42 doyens, 42 facultés de pharmacie, et puis donc qui sont éparpillés un peu, qui sont un peu sur les quatre continents. Il y a 22 facultés françaises qui sont membres, il y a donc deux canadiennes, les belges de 0 à 4, ça dépend des années, il y a une faculté suisse, il y a le Liban, il y a Cambodge, et puis il y a pas mal de pays africains. C'est un peu pour vous décrire la problématique.
Et puis au niveau de l'acide Falmef, nous avons découvert donc ce beau travail que Françoise donc nous a présenté. C'était à Burkina Faso et évidemment qu'on était tous ébahis. Certains parmi nous n'avaient jamais entendu parler de cette nouvelle technologie ou alors vaguement très peu. Donc évidemment qu'on était très enthousiastes pour l'échange pays nord, pays sud de ces nouvelles technologies, de l'enseignement et surtout le partage de ces ressources qui sont quand même assez importantes. Alors, ce qui fait qu'au niveau de l'acide Falmef, avant de parler de ce qu'on peut faire au niveau de l'acide Falmef et de passer donc à la discussion, il faut bien se situer dans le contexte de ces pays, de ces facultés qui font partie de cette conférence, c'est que ce sont des pays qui sont, enfin, des facultés qui sont assez variables en fonction, en matière de spécificité. C'est-à-dire les besoins dans ces facultés d'enseignement ne sont pas les mêmes, les spécificités ne sont pas les mêmes, donc il faut considérer les choses doucement. Par la suite, tout ce qui est technologie n'existe pas dans bon nombre des facultés qui ont besoin finalement de ces nouvelles technologies. Donc c'est vrai qu'on est enthousiaste, mais Didier vient de décrire les besoins en ordinateur, en électricité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme support à cette nouvelle technologie. Et puis les besoins spécifiques en enseignement. Donc ça aussi c'est une chose qui est importante à considérer dans notre discussion. Ce qui fait que quand on pense à des programmes comme ça, ce qui est très intéressant, c'est d'associer finalement les enseignants des pays qui sont demandeurs au niveau de la CIT Falmef au montage de ces programmes, l'élaboration des cours, l'élaboration des programmes. Et je pense que ça, c'est une chose qui est très intéressante, étant donné que quand on est associé à un programme, on sait ce dont on a besoin et finalement on veille à la pérennité de ce programme dans nos facultés. Donc ça c'est un des points qui est très important, c'est de ne pas venir et donner cette nouvelle technologie comme ça telle qu'elle est donnée là, mais au contraire faire participer les gens à l'élaboration des programmes ou des données ou des cours dont ils ont besoin. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire pour la problématique. Le contexte matériel, on en parlait, donc associé. Et moi, je pense donc c'est qu'au niveau, dans l'ensemble, au niveau des cours, au niveau de tout ce qui est mis en ligne comme ça, ce qui serait intéressant, ce sont les associations des enseignants. Je fais partie de l'association des enseignants en microbiologie et immunologie, et je pense que si on peut arriver à faire, je ne sais plus qui parlait de livres ou de bibliothèques ce matin, à faire donc l'élaboration de cours comme si on écrit un livre et chacun fait un chapitre. Donc ça aussi, ça peut être une technique intéressante pour que tous ces gens-là soient associés, enfin qu'on soit tous au niveau de la CIT Falmef associés au traitement de certains sujets qui sont les plus demandés dans certains pays et aux sujets qui sont les plus demandés par des étudiants, parce que les étudiants, quand ils ont entendu Françoise à Burkina Faso par exemple, ils voulaient plus la lâcher. Ils voulaient qu'elle reste là, qu'elle leur fasse un. C'est vrai, Françoise, elle n'a pas pu sortir. Ils étaient là demandeurs. Donc, je pense que ça, c'est valable au niveau de toutes les facultés de pharmacie et autres facultés. Donc, voir le besoin de nos étudiants. D'ailleurs, un témoignage d'un des étudiants le disait ce matin. Et donc, voilà, c'est ça la problématique. Et ensuite, associer tous ces gens-là à l'élaboration des programmes qui seront appliqués chez eux. Et puis, considérer aussi ces ressources qui sont très importantes comme une bibliothèque et non pas comme des ressources pour avoir un diplôme. Ça, c'est important dans notre formation de pharmacien et dans tout ce qui est métier médical, paramédical. Et donc, Didier a bien insisté sur ce point-là aussi, parce que vous comprenez bien que dans certains pays où nous n'avons pas les moyens, si on a une nouvelle formation qui peut donner un diplôme, où je peux devenir moi mieux, avoir une promotion rapidement, tout ça, c'est très demandeur. Et comme ce n'est pas réglementé dans tous les pays, donc là, il faut faire très attention que ça ne soit pas, qu'on n'induise pas les gens dans l'erreur et qu'on distribue des diplômes qu'ils vont les utiliser entre guillemets d'une façon aléatoire et où les connaissances d'ailleurs sont aléatoires, pas bien sanctionnées, etc. Donc c'est un peu ce que j'avais à dire au niveau de la CIT Falmef. Alors ce que je peux proposer là, parce qu'on est majoritairement, enfin il y en a pas mal des membres de la CIT Falmef ici, c'est que si on veut être opérationnel pratiquement, il faut qu'on fasse un état des lieux. Vous, les Français, je pense que vous êtes en train de faire votre état des lieux les uns après les autres, mais au niveau des pays francophones, nous avons besoin de connaître d'abord les besoins de chacun et ensuite les équipements que chacun a pour qu'on puisse appliquer ce qu'il faut appliquer. Donc faire un état des lieux et connaître les besoins des uns et des autres en matière, en formation, etc., pour qu'on puisse commencer ceci. Ce qui serait aussi donc important et souhaité par la plupart des membres de la Cite Fermer, c'est de faire un atelier pratique. C'est-à-dire comment on commence, qu'est-ce qu'on fait, comment on ouvre le site d'abord et comment on peut profiter, comment on peut intégrer ça dans notre enseignement. Moi, je pense que ça, c'est important, c'est un basique, peut-être que certains le connaissent très bien, mais pour un bon nombre, on ne sait pas comment on le fait. Là, elle l'ouvre, c'est séduisant, c'est génial. Mais comment je peux intégrer moi dans mon cours de microbiologie que je vais donner demain à mes étudiants? Donc le basique est important au niveau de la Cite Fermer, et peut-être qu'on va demander à Françoise, donc dans notre prochaine réunion qui va avoir lieu à Lyon, de venir et de faire un atelier pratique pour les gens qui maintenant commencent cette nouvelle technologie et comment on peut s'en servir et comment on peut rédiger nous nos chapitres aussi et notre enseignement. Donc je pense que c'est un peu ça le but aussi, et c'est là aussi où nous allons avoir besoin de soutien de l'AUF, parce que là Didier Wallo vient de nous dire qu'il y a peut-être un soutien et des moyens dans ce sens-là. Voilà, tu m'écoutes Didier, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire. Je vais peut-être passer la parole au doyen Combard.
Oui, bon, ben alors d'abord, ça me fait très plaisir d'être ici, parce que c'est quand même assez symbolique. Dola Karamsarkis, la doyenne de Beyrouth, est mon successeur à la présidence de Cite Fermer, que j'ai créé ici en 2002. Donc ça me fait très plaisir d'être ici. C'est vrai que je crois que ce problème de l'enseignement à distance est peut-être le problème majeur de Cite Fermer, de toutes ces relations entre le Nord et le Sud. Et je dois avouer que on va s'apercevoir, tu l'as dit très justement, que Cite Fermer est une structure qui est très dynamique, on ne peut pas dire le contraire, mais qui a une plateforme relativement limitée. Et je dois avouer que depuis un certain nombre d'années, j'ai toujours comparé, non pas par paranoïa avec la médecine, mais il est sûr que la plateforme effective de CIDMEF n'a rien à voir avec celle de Cite Fermer. Pour la bonne raison que les médecins ont choisi une option que nous n'avons pas choisie, qui est de dire qu'un certain nombre de collègues, qui même aujourd'hui à la retraite veulent continuer à s'investir, peuvent continuer à s'investir. Ce qui explique que Cite Fermer doit avoir un bureau d'une cinquantaine de personnes et que bien évidemment vous faites plus à 50 que nous ne faisions à 4 ou 5 et que tu continues à le faire à 4 ou 5 en prenant sur notre temps sur les autres postes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'il y a absolument une nécessité et je crois que tout ce qui a été dit ce matin, moi j'ai pris un certain nombre de notes, je ne vais pas y revenir trop dessus, mais tous les points qui ont été abordés ce matin sur la formation continue, sur les rapports entre le présentiel et le non-présentiel se retrouvent ici. La question, en effet, ça a été dit tout à l'heure très justement par M. Wallo, il ne faut pas que l'on vide de leur substance les universités présentielles par des structures qui seraient trop abstraites ou très virtuelles. Par contre, je crois que le gros problème, et ça a été dit ce matin, ça va être de conjuguer justement le présentiel et le numérique. C'est-à-dire que je veux dire, un exemple que j'ai vécu, que je ne pensais pas qu'il était aussi prégnant, quand je suis allé il y a 3 semaines en mission aux Antilles pour la première année de médecine, pharmacie de PACES. Et nos étudiants reçoivent par intranet, ils reçoivent donc les cours. Et donc, ils sont tous nos cours avec le diaporama et tout ça. Et quand je suis arrivé là-bas, on n'avait que des travaux dirigés. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient déjà acquis les cours. Ils avaient donc simplement, c'était les questions, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris. Et on s'aperçoit que la complémentarité entre les cours qui n'ont pas besoin d'être avec du présentiel prennent toute leur importance lorsqu'on va leur faire des travaux dirigés. Ce matin, j'ai noté qu'il y avait des films de travaux pratiques. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est des travaux pratiques de botanique à Conakry? Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs missions en Afrique. C'est des racines sur une table. Donc, vous vous doutez, comme sont preneurs, les pays du Sud, quand on va leur proposer des cours, des travaux pratiques, parce qu'ils n'ont vraiment rien. Quand on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il y a un professeur de toxicologie pour 4 facultés de Dakar, d'Abidjan, je crois de Bamako, et je ne me rappelle plus la quatrième. Bon. Autrement dit, le jour où nous allons avoir la possibilité de leur envoyer un cours de toxicologie, eh bien, on enverra ce cours, et ensuite, c'est à nous d'aller conforter cet enseignement par du présentiel de travaux dirigés. L'autre point qui est important et que j'ai relevé tout à l'heure, il faut former des gens. Mais je crois que le plus important, c'est de former des formateurs. Et je suis content d'avoir la doyenne de Monastir à côté de moi, parce que je crois que la Tunisie est le plus bel exemple de la formation de formateurs. Il y a 25 ans, vous receviez tous les ans des dizaines, ce qu'on appelle des missionnaires, qui venaient faire les cours à Monastir. Aujourd'hui, sauf pour des enseignements, je dirais, très ponctuels, qui rentrent dans du troisième cycle, le Monastir est autosuffisant. C'est-à-dire qu'en 25 ans, ils ont formé tous les professeurs, tous les maîtres de conférences qui assurent à l'heure actuelle la totalité des cours de la faculté de pharmacie de Monastir. Je crois que c'est ça vers lequel il faut tendre. Et d'autre part, lorsque l'on fait ces échanges nord-sud, je crois qu'il y a deux notions qui ont été d'ailleurs, je crois, évoquées. C'est la notion de modestie lorsqu'on va proposer des programmes. Modestie parce qu'il ne faut pas faire, l'erreur majeure serait de faire un copier-coller. Quand vous avez l'outrecuidance d'avoir vu des programmes que j'ai vus, où on fait l'obésité pour des pays comme le Mali ou le Burkina Faso, pour ceux qui sont allés au Mali ou au Burkina Faso, je dirais que là, on n'est pas loin de la provocation. Bon, tout simplement, c'est qu'il faut réfléchir aux besoins des uns, aux besoins des autres. Ce qui veut dire qu'il y a besoin d'un partenariat. Et donc, toutes ces réflexions, si vous voulez, sont, je crois, la base de ce travail en commun, mais qui est un travail nord-sud. D'autre part, lorsque nous formons les gens du Sud, je crois que le dogme, et la Tunisie l'a bien compris, je crois que le dogme, c'est qu'un formé du Sud doit revenir au Sud, et non pas essayer de faire la pompe aspirante, si vous voulez, de garder les gens du Sud. Alors c'est vrai que nos conditions, quelquefois, sont un peu plus attrayantes, mais je crois que la mission est quand même de former les formateurs qui seront les futurs cadres des universités du Sud. Bien, bon, je vais arrêter parce que là, j'en ai pour une heure. Donc, voilà, moi, je crois qu'on est tout à fait dans la réalité, mais, et Dola a raison en tant qu'exécutive actuellement, je crois que le gros problème, c'est avec quel temps, avec énergie on l'a, mais avec quel temps nous allons pouvoir monter des programmes aussi ambitieux, en plus de tout le reste de nos fonctions de professeurs, un certain nombre sont doyens, ont des fonctions à CIDFARMEF, comment allons-nous faire? Et je pense que c'est pas l'aide toujours bienveillante, et je crois que M. Wallo a été trop modeste de l'aide de l'AUF. Moi, j'ai une grande estime pour l'AUF, pendant laquelle j'ai été pendant une douzaine d'années, pour l'aide vraiment prépondérante d'abord qu'il a apportée à tous les organismes, et surtout à CIDFARMEF, de nous permettre, ne serait-ce que de faire venir les collègues du Sud à nos différentes manifestations tous les ans. Et je crois que l'AUF a bien compris, si vous voulez, que la francophonie, c'est à la fois de parler français, mais comme moi on me l'a appris, vous voyez que j'étais à bonne école mais avec monsieur le recteur, de dire que c'était l'esprit francophone et qu'on pouvait très bien être une université francophone sans avoir 100% des cours en français. J'ai bien appris la leçon.
Je rebondis sur ce que vous avez dit à propos de la formation des formateurs. Bon, c'est vrai, nous avons une autosuffisance, mais nous croyons toujours à la coopération internationale. Et nous avons voilà des conventions avec la majorité des facultés de pharmacie françaises en particulier, surtout dans le cadre de co-tutelles, de thèses, dans le cadre de... Donc on va aller vers la co-diplomation, j'espère qu'on y parviendra. Alors, toujours dans le cadre de la formation des formateurs, nous continuons à former les formateurs, et en particulier aux nouvelles techniques, donc au niveau des autistes, et à la formation à distance. Et à ce niveau-là, nous avons le soutien de l'AUF. Donc, nous organisons, c'est une obligation, la formation pédagogique à la faculté de pharmacie de Monastir, que ce soit pour la pédagogie classique ou la pédagogie pour la formation à distance. Un assistant ne peut donner, parce que chez nous c'est l'ancien système, assistant, maître de camp, fait professeur. Donc on ne peut donner des cours que si on a fait la formation pédagogique. Donc c'est incontournable. Alors pour la formation à distance, nous sommes soutenus par l'AUF. Nous organisons deux séminaires par an pour initier les enseignants à élaborer donc des supports, etc., et pour préparer, pour mettre à distance certaines formations. Alors, former les tuteurs, donc le système de tutorat, etc. Il faut dire que nous avons une université virtuelle très active, l'UVT de Tunis. Donc, sur le plan technique, on est bien soutenu. Toujours dans le cadre de du soutien de l'AUF, on a eu une petite expérience. Donc, c'était un projet de 3 ans pour un module de formation en 5e année pharmacie chez nous, c'est l'hygiène hospitalière. C'est avec Hygiénosa de Grenoble. Et donc, il y a tout d'abord la formation des enseignants tunisiens à Grenoble pour mettre en place une formation à distance. Ils ont contribué à l'élaboration du support, donc du contenu des cours. Mais on a fait signer aux enseignants donc un engagement comme quoi donc ils ne réclameront jamais un droit parce que c'est payant. Donc et on les a donc formés en matière de tutorat et ça a très bien marché. Donc on a formé 3 promotions, ça, un total de 550 étudiants à peu près. Même l'évaluation, les examens se font en Tunisie sur place parce que bon, nous sommes bien outillés. Ça a très bien marché. C'était une formation entre Monastir, Grenoble et une faculté vietnamienne. Maintenant, le projet donc a expiré et nous sommes en train d'élaborer notre propre formation à distance parce qu'on s'est donné comme objectif d'ici la fin 2013 30% de notre cursus soit assuré à distance. Et donc, espérant qu'on y parviendra, et c'est pour cela que je suis très intéressée donc par ces possibilités de collaboration. Alors, bien sûr, l'accès à cette formation avec Hygiénosa, c'est un accès payant. Et c'est l'AUF qui a pris en charge cette possibilité. Alors, en ce moment, ce que nous avons comme projet, donc c'est notre propre module d'hygiène hospitalière, donc il sera vraiment donc conçu totalement, il avance très bien. Mais nous avons également un master professionnel d'hémobiologie et de sécurité transfusionnelle qui intéresse beaucoup les pays africains. Donc c'est une collaboration sud-sud soutenue par l'AUF également. Donc l'AUF, elle soutient surtout les Africains parce que la formation, elle sera à distance, mais l'évaluation se passera en Tunisie. Donc les examens se passeront en Tunisie et l'AUF donc soutiendra les étudiants africains pour se déplacer, pour pouvoir donc passer leur examen. Donc, voilà à peu près ce que j'ai à dire. Donc, nous avons une expérience avec l'AUF, espérant que nous trouverons donc certainement les voies de collaboration avec l'université numérique des sciences pharmaceutiques donc francophone. Ça nous intéresse parce que je pense que pour parvenir à ces 30% d'enseignement à distance, ça va être un peu lourd pour nous, mais bon, espérons qu'on y parviendra. Nous sommes ouverts à toute collaboration, donc on va certainement échanger des courriers, etc., pour voir dans quel sens on peut continuer. Et merci.
Bon, pour moi, je vais intervenir avec un support de 8 diapositives et en 13 points. Pour faire état d'un projet qui vient d'être retenu par l'UNF3S pour les financements du 2e appel d'offres, l'objectif étant de constituer un enseignement numérique à distance pour la pratique de la pharmacie hospitalière dans les pays en développement. Actuellement, c'est beaucoup plus ciblé sur l'océan Indien et la raison en est situé sur cette diapositive, puisque ceci, c'est dans le contexte d'un partenariat qui existe déjà depuis 5 ans, un petit peu plus, entre l'université Joseph Fourier à Grenoble et l'université d'Antananarivo à Madagascar. En effet, Grenoble a eu on nous a confié le pilotage de la mise en place du département de la pharmacie au sein de la faculté de médecine à Antananarivo effectivement, il n'y a pas du tout d'enseignement de pharmaciens dans tout l'océan Indien, et c'est un gros problème pour l'accès des populations aux soins et aux médicaments, le bon usage du médicament, la lutte contre la contrefaçon, enfin différents niveaux. Maintenant, sont associés aussi à ce partenariat les deux autres universités françaises avec Bordeaux et Toulouse. Alors, tout d'abord, le rationnel, pourquoi cette formation qui va venir en post-pharmaceutique. En effet, ce qui a été mis en place pour la formation des pharmaciens à Madagascar est une formation qui repose sur 5 ans, essentiellement ciblée sur la pharmacie d'officine et la pharmacie hospitalière. Ce sont les objectifs absolument prioritaires. Et la première promotion de pharmaciens malgaches va être diplômée en février 2011. Donc, dans ce contexte-là, puisque le ministère de la Santé à Madagascar vient de décider, sous la pression de différentes autorités étrangères, la nécessité de mettre en place, de mettre des pharmaciens dans les hôpitaux. En effet, il n'y a pas de pharmaciens dans les hôpitaux à Madagascar. 11 postes viennent d'être créés pour nos jeunes pharmaciens qui vont sortir de cette formation pharmaceutique. Et ces postes sont ciblés tout d'abord sur la santé publique et sur leur action dans les hôpitaux. Alors ce rationnel, c'est bien entendu lié au fait que la pharmacie hospitalière dans les pays en développement est un des points absolument essentiels pour la gestion rationnelle de l'accès aux médicaments. Le fait aussi que ceci repose sur des compétences spécifiques, ça ne s'invente pas. En effet, pour le moment, les pharmacies hospitalières sont concessionnées à des extérieurs, pas forcément d'ailleurs très compétents dans le domaine. Et ceci pose de gros problèmes sur le plan de la gestion de tout le bon usage du médicament. En effet, il y a peu de structures maintenant disponibles et adaptées à cette exigence. Par ailleurs, les contraintes sur le plan économique et les problèmes de mobilité ont été largement soulignés précédemment et je n'y reviendrai pas. Alors, les objectifs de cette formation à distance, c'est donc former les pharmaciens à la pratique et à la gestion d'une pharmacie hospitalière dans le cadre d'un pays en développement. Comme je le rappelle ici, c'est fortement contextualisé, et s'il s'agissait bien sûr de pays asiatiques, il n'y aurait certainement pas la même démarche et le même objectif pédagogique. Ici, c'est ciblé vraiment sur l'océan Indien en priorité, quitte à être étendu un petit peu plus tard à d'autres pays. Donc, deuxième objectif, rendre accessible la formation par l'utilisation des TIS et l'auto-formation et la mise en place d'un dispositif pour tutorer les étudiants au sein des institutions partenaires. Alors ceci, j'explique, Madagascar, là aussi, sur le plan de tout ce qui est autoroute de l'information, était un petit peu à l'écart jusqu'à présent. Ils ont le haut débit seulement depuis un an, c'est extrêmement récent. Et dans ce contexte-là, il fallait aussi enfin un outil, une réflexion adaptée. Donc le public ici est ciblé sur les pharmaciens. Tout d'abord, c'est, comme je vous le disais précédemment, ces jeunes pharmaciens qui vont sortir diplômés. Et ceci va être étendu aussi aux Comores et à l'île Maurice, où il y a une demande dans ce contexte. Par ailleurs, les contacts que l'on a maintenant depuis plusieurs années avec Madagascar nous font remonter de la part de l'Ordre des pharmaciens de Madagascar un très fort besoin de la part des pharmaciens d'officine d'avoir aussi accès à une formation. Par conséquent, ce type aussi de support va pouvoir servir de formation continue aux professionnels qui sont très très demandeurs et pour lesquels il n'y a pas d'outils actuellement auxquels ils peuvent avoir accès. Alors, une fois que ces outils seront développés, bien très certainement aussi, nos collègues des autres universités seront sollicités dans le cadre des contacts déjà existants pour pouvoir l'étendre, ce type de formation ciblée sur la pharmacie hospitalière avec les pays d'Afrique francophone, mais aussi, bien sûr, Caraïbes et peut-être Asie du Sud-Est. Alors, quel outil? Eh bien, l'outil peut-être importe peu, l'objectif, c'est que ce soit quelque chose qui soit facilement utilisable par le pays. et avec les moyens dont il dispose. Il y a eu l'excellente expérience dont il a été fait état en parallèle dans en médecine aujourd'hui, ou hier je crois, pour toute la formation sur la mère et l'enfant, hein, dans le cadre d'un fonds de solidarité prioritaire. Et ceci a montré que l'outil type DVD avec un accompagnement tutoré était un outil parfaitement utilisable, maîtrisable et facilement, qui peut être géré de façon assez facile, hein, sans trop de contraintes, qui dépendent du fait qu'il n'y a pas de délestage de courant, enfin, etc., avec tous les problèmes qui sont posés au niveau du pays malgache. Alors, ceci repose sur trois séquences, hein, successives, sur le plan de cette auto-formation sur DVD. Tout d'abord, l'enseignement qui sera enregistré sur le DVD et auquel l'étudiant pourra facilement avoir accès, mais ceci avec un encadrement avec les enseignants, hein, via un site internet qui pourra être mis en place localement, parce que des ressources locales ont été identifiées, et bien sûr la formation de ces formateurs, hein, qui vont aider à recevoir cet enseignement enregistré sur DVD et un tutorat en présentiel. C'est donc sur cette base, hein, que cette formation sur la mère à l'enfant a été formée, a été développée, et puis c'est le système qui est bien maîtrisé à Grenoble maintenant pour la première année de santé. Donc, sur le plan de ces outils pédagogiques, ils vont être développés et conçus par la cellule TIS à Grenoble, avec nos collègues de médecine qui ont déjà participé à ce FSP dont je parlais précédemment. Et là, vous avez la gestion, hein, de l'ensemble de cette formation avec le DVD, passage par le site, auto-formation, les séances avec questions-réponses de la part des étudiants, accompagnement de tutorat, et bien sûr la validation, vous y avez fait largement allusion précédemment, dans le cadre de ce qui a été dit pour que les connaissances acquises puissent être validées. Alors en ce qui concerne le contenu pédagogique, trois modules d'enseignement, en gros c'est 100 heures avec de l'enseignement théorique mais aussi de l'étude de cas, avec des mises en situation. Il va y avoir trois modules sur qu'est-ce que c'est qu'une pharmacie hospitalière dans les pays en développement sur le plan du milieu hospitalier et de ses contraintes. Alors sur le plan de l'achat, de l'approvisionnement, la gestion des produits de santé. Deuxième partie du module, la prise en charge thérapeutique, en se basant bien entendu sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, hein, qui est développée pour Madagascar, l'action de santé publique en matière de prévention, basée sur les maladies prioritaires du pays, bien entendu maladies infectieuses, problèmes de nutrition, maladies cardiovasculaires, problèmes de néphropathie importantes. Et puis ensuite, la production et le contrôle en matière de contrôle de qualité des médicaments, et là aussi, quel est le rôle du pharmacien pour s'assurer que les médicaments qui rentrent dans le pays sont effectivement des médicaments de qualité. Alors le déroulement de ce projet va se dérouler en trois phases. Donc il est financé pour toute sa première partie, on peut dire conception, hein, du DVD et sa réalisation. Ceci va être initié dès la fin de l'année, durer à peu près 3-4 mois. Et puis ensuite, à partir de septembre de l'année prochaine, l'ouverture de ce diplôme interuniversitaire sur le plan international sera mis en place, puisque les pharmaciens vont sortir au début de l'année prochaine. Et tout de suite, il n'était absolument pas question de laisser ces jeunes pharmaciens qui vont avoir à travailler dans les pharmacies hospitalières sans encadrement, parce que je rappelle, il n'y a pas de pharmacien pour les former. Il fallait absolument tout un processus et une démarche de sécurisation de leurs fonctions et de leur formation. Par conséquent, on a bénéficié bien entendu de l'UNF3S, hein, qui finance à la hauteur de 40 000 euros toute la réalisation pratique. Et comme la formation des pharmaciens auxquels je faisais allusion précédemment a été déjà co-soutenue depuis plusieurs années par deux structures, la Fondation Mérieux et la Fondation Pierre Fabre. Toutes les deux, là aussi, sont présentes pour compléter le support et les besoins dans ce contexte-là. Et très certainement, les Malgaches répondront aussi à l'appel d'offres de l'AUF, puisqu'il y a une appel d'offres de l'AUF qui est lancé mars 2011 pour former, comme vous l'avez dit, prioritairement les jeunes et les jeunes femmes sur l'utilisation et l'accompagnement. Donc dans ce contexte-là, il y a eu déjà maintenant, il y a 5-6 enseignants qui ont été formés sur place pour s'approprier petit à petit cette formation, et c'est donc le complément. Voilà, je vous remercie.
Donc dans le cadre de nos missions AUF, il y a 12 universités membres en Haïti sont, enfin 12 universités sont membres de l'AUF en Haïti sur les 200 qui existent en ce moment sur l'île. Alors quand on dit 200, il y en a 188 qui n'ont d'université que le titre, qui sont des centres de formation confessionnelle, des centres de formation privés dans les maisons, etc. Donc le séisme a fait, comme vous le savez, beaucoup de morts, on ne sait pas, 200 000 peut-être plus, mais a laissé 1 million de personnes sans domicile. Et actuellement, on est dans un réel problème parce que, à part une université, l'université d'État d'Haïti, les autres sont des universités privées et qui aujourd'hui, avec la décapitalisation des familles due au séisme, n'ont plus les moyens de subvenir aux formations des jeunes. Non seulement les bâtiments sont par terre, mais même lorsqu'il y a encore des bâtiments ou lorsqu'on met des toiles, il est évident qu'on n'a plus pas de capacité de payer les études comme c'était le cas précédemment pour les jeunes, à part quelques familles privilégiées. Mais la plupart des familles privilégiées ont quitté l'île et les jeunes aujourd'hui font leurs études soit au Canada, soit en Floride. Et la France, dans sa générosité, a offert 730 bourses également pour que des jeunes haïtiens viennent faire des études en France. Tout ça étant, toute cette générosité-là, elle est complexe parce que là aussi des effets pervers, étant donné que ce sont les meilleurs qui quittent l'île et qu'ensuite il reste les autres et que ces 730 jeunes qui sont en France actuellement sont de très bons étudiants. Et il reste à chaque fois des étudiants qui ont eu moins de chance peut-être, mais en tout cas ils en ont encore moins maintenant parce qu'ils n'ont plus d'enseignants. Donc dans le cadre des missions de l'AUF, nous avons participé. Donc je vous rappelle, l'AUF c'est multilatéral, c'est pas la France. Même si la France met 85% des budgets, on la remerciera jamais assez, on a aujourd'hui une vocation multilatérale et on dépend du sommet des chefs d'État francophones, c'est-à-dire environ 70 pays, dont Haïti d'ailleurs, qui est un des pays de la francophonie. Donc quand on met quelque chose en place avec des Français, c'est un partenariat comme si on le faisait avec des Maliens ou des Canadiens, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on est dans une négociation. La négociation, elle a amené à deux grands projets. Le premier projet que je dirige, qui s'appelle PENDA, c'est un plan d'enseignement numérique à distance pour les universités haïtiennes. C'est donc la mise en place de 12 campus numériques, un par université haïtienne. Premier point. Deuxième point, d'avoir la mise en place de formations de formateurs, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et enfin, de faire appel au contenu des universités numériques thématiques, de l'ensemble, même celles de droit, et c'est pour vous dire, puisque celles de droit, vous savez, elle est fermée, les ressources sont payantes. Les ressources en droit sont maintenant gratuites, elles nous permettent de, en les réingénierisant, contextualisant, de lancer très rapidement un projet d'enseignement numérique. Et le deuxième projet qui est important pour vous, c'est un projet santé, j'ai bien dit santé, hein. C'est un projet santé qui vise à renforcer les enseignements dans le domaine de la santé. En Haïti, il y a quatre facultés de médecine. Il y a une faculté de médecine à l'université d'État, une dans l'université catholique Notre-Dame d'Haïti, une dans l'université Quisqueya, qui est une université de très bonne qualité d'ailleurs, et puis une dernière, l'université Lumière, qui est une autre petite université. Donc il y a 4 facultés de médecine, un hôpital universitaire qui sera reconstruit en 2014 sur un contrat franco-américain. Clinton et Kouchner ont signé un contrat sur la reconstruction d'un hôpital universitaire. Mais en attendant, il faut former, dans ce domaine de la santé, il faut former, d'abord, on a perdu énormément d'enseignants, il ne faut pas oublier qu'il y a 4800 enseignants qui sont morts, c'est pas rien. 60 000 étudiants et élèves, ça fait beaucoup. Et donc on a aujourd'hui un devoir, je dirais un devoir d'universitaire, de pouvoir répondre à un certain nombre de demandes, en particulier pour les pharmaciens, puisqu'il y a une faculté de pharmacie à Port-au-Prince. Je ne sais pas si le doyen est encore vivant ou si c'est le même doyen, mais en tout cas, il existait. Et donc là, je pense que la CIT Pharmef, de par son appartenance à l'AUF, se devra de participer avec nous à cet effort de reconstruction de l'enseignement supérieur. Alors, attention, on ne va pas pallier le manque. On va faire en sorte de reconstruire quelque chose, voire de le construire, mais on va pas dire construire, mais de reconstruire un enseignement avec une vraie gouvernance. Et c'est le moment, à mon avis, pas simplement d'y aller pour donner simplement des ressources numériques, mais de reconsidérer les études de pharmacie avec les autorités locales, de manière à peut-être à les moderniser, à les rendre plus adaptées au monde moderne, et de, dès le début, d'intégrer, comme le font les Tunisiens, enfin, dans le plan présidentiel, le nouveau, c'est 30%, mais le précédent, c'était 20%. 20% des cours en Tunisie sont numérisés. C'est une obligation présidentielle. Bientôt, ça va être 30%, et c'est très intéressant. Parce qu'en ayant un plan présidentiel comme ça, c'est violent quand même, hein, même s'il y a eu le sommet mondial sur la société de l'information, ça oblige l'ensemble de la population universitaire à se former, d'un coup. Et ça oblige chacun, dans la mesure de ses moyens, à rentrer dans le numérique parce que c'est une obligation. Et donc, et en plus, tout le monde y trouve son compte parce que les Tunisiens ont bien compris deux choses. La première, ce problème de démographie universitaire qui est galopant, et puis la volonté de déconcentrer les universités sur les régions. Et il y a des régions qui n'ont malheureusement pas d'enseignants parce que ce sont des régions du Grand Sud. Même Djenbouba, il n'y a pas beaucoup d'enseignants, et peut-être Gafsa encore moins. Donc on est dans cette logique-là. La deuxième logique, c'est qu'à partir du moment où on a un enseignement numérique de qualité, l'exportation, disons, l'internationalisation de ces savoirs est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on peut se dire que la Tunisie, en ayant ces 30%, va rendre un service dans une coopération intermédiaire, alors qu'avant ce sont les pays du Nord qui coopéraient beaucoup avec l'Afrique subsaharienne. Le front maghrébin va devenir un nouveau front de coopération avec les pays du sud du Sahara dans le domaine académique. Et c'est vraiment, à mon avis, une stratégie extrêmement bien pensée. Il faut savoir aussi que 25% de la croissance de la Tunisie est due aux nouvelles technologies. Donc je dirais que la politique est bien entamée. Pour Haïti, c'est la même chose. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais on peut se dire qu'en rentrant dès le début dans les études, enfin, c'est mon avis, ce sera à discuter avec les autorités locales, dès le début du numérique dans les études de pharmacie, c'est quelque chose de gagnant, par avance. Ça imposera une modernisation des enseignements, ça imposera certainement également qu'on travaille sur des nouveaux standards, tels que le LMD, au lieu d'avoir des trucs, on sait pas trop, il n'y a même pas d'unité de valeur, des examens comme ça, périodiques. Avoir quelque chose de très standardisé qui impose une vraie norme d'enseignement avec une vraie relation de l'étudiant à la connaissance et pas simplement de l'étudiant à l'enseignant. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc il faudrait qu'on soit un peu proactif dans ce domaine. Je compte sur toi, Françoise, pour qu'au moins dans ce domaine, dans la médecine, ils sont en cours. Mais ils ont beaucoup de monde, ils ont des moyens, ils sont déjà sur les rangs. Pour la pharmacie, c'est très intéressant parce que là, on travaille sur une petite unité, une petite population, et c'est plus facile à faire dès le début et peut-être même d'en faire un modèle pour d'autres disciplines. Moi, j'y crois beaucoup. Et puis, en même temps, pharmacie, on associe biologie, chimie. On est assez à l'aise pour faire ça.
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc, si cette proposition vous agrée, il faudra qu'on prévoit un budget par rapport à ça, qu'on voit comment on constitue un comité. Vous...